Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours de 15h à 16h. Alors cet après-midi, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons choisis pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre microbiote, notre flore intestinale qui fourmille de bonnes bactéries. Alors enfin, ça c'est quand l'équilibre règne, hein, parce que vous l'entendrez, quand nos intestins déraillent, cela pourrait causer pas mal de soucis, stress, obésité ou même dépression. La solution pourrait donc être dans notre ventre. Mais avant ça, on va parler de nos dents, mais surtout de ces problèmes dentaires qui peuvent avoir un impact sur notre santé globale. Et oui, laisser traîner des caries, ne pas traiter une gingivite, c'est plus sérieux qu'on ne l'imagine. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous avions reçu le docteur et chirurgien dentiste Christophe Lecard.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
On va commencer par un trouble du sommeil bien connu, les problèmes d'apnée. Vous savez, ces pauses respiratoires nocturnes. Et donc, vous nous dites que ça peut se traiter chez le chirurgien dentiste.
Eh bien, l'apnée du sommeil peut être traitée chez le chirurgien dentiste en réalisant ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. L'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un petit peu comme deux protège-dents qui se fixent à la fois sur la mâchoire du bas et sur la mâchoire du haut. Et ces deux petits protège-dents sont reliés par des biellettes qui vont vous obliger à avancer la mâchoire inférieure. Et le fait d'avancer la mâchoire en avant va libérer les voies aériennes en postérieur et donc va diminuer le nombre d'apnées du sommeil.
Mais est-ce que cette prise en charge donc dentaire, enfin, par des orthèses mandibulaires, elle peut être utile, en tout cas dans tous les cas d'apnée du sommeil? Non, j'imagine.
Alors ça ne fonctionne pas dans tous les cas d'apnée du sommeil. Environ 80% des cas peuvent être traités en première intention avec ces orthèses d'avancée mandibulaire. Et quand elles ne fonctionnent pas, eh bien, on est obligé de passer à la pression positive, c'est-à-dire avec cet appareil
pour dormir,
qui va propulser de l'air avec un masque qui est beaucoup plus inconfortable que l'orthèse d'avancée mandibulaire.
Et comment est-ce qu'on utilise cette orthèse? C'est toutes les nuits, toute la vie? Est-ce que je crois que c'est un peu difficile à supporter? Ce n'est pas très agréable pour les patients, même si après, la qualité de vie est au rendez-vous.
Alors, c'est à porter bien sûr toutes les nuits et toute la vie parce que c'est un véritable problème si on souffre d'apnée du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de conséquences, des risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Donc, à porter tout au long de la vie, de manière assez surprenante, même si ça paraît encombrant, les patients.
Moi, j'aimerais pas dormir avec quelque chose dans la bouche comme ça. Enfin, vous dites dessus, dessous. Enfin, ça doit être encombrant quand même pour dormir et respirer. Justement.
C'est un peu encombrant, mais les patients la tolèrent très facilement parce que, en plus, ils gagnent en confort de vie parce que quand ils se réveillent le matin, ils ne sont plus fatigués.
Et, oui, c'est vrai.
Et donc ça, c'est énorme. Et par rapport aux patients qui étaient sous pression positive et qui passent aujourd'hui avec une orthèse d'avancée mandibulaire, c'est vraiment totalement différent parce que avec l'orthèse, vous pouvez dormir sur le ventre, sur le côté, ce qui n'est pas possible avec la pression positive. Et en plus, l'orthèse ne fait pas de bruit, à l'inverse de la machine qui insuffle l'air.
Ces orthèses, vous les faites vous en cabinet? Comment ça se passe? Vous faites un moulage et c'est du sur-mesure, j'imagine, hein?
C'est sur du sur-mesure. Au départ, il y a une prescription qui est faite par un médecin du sommeil. Et ensuite, au cabinet, on va réaliser des empreintes de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure. On va calculer l'avancée maximum de la mandibule possible. Et ensuite, il y aura une fabrication par des laboratoires spécialisés de ces orthèses. Et on va régler l'avancée mandibulaire environ à 80% de l'avancée maximum.
Et combien ça coûte? Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale?
À partir du moment où elles sont prescrites par un médecin du sommeil, c'est pris en charge par l'assurance maladie, à la fois la partie laboratoire et la partie chirurgien-dentiste.
Très bien. Alors, autre problème du sommeil qui se règle dans notre bouche chez le dentiste, certains patients viennent vous voir parce qu'ils souffrent de bruxisme. Vous savez, ce sont ces gens qui grincent la nuit des dents. Le bruxisme, c'est ça, hein, d'abord, c'est ce phénomène de gens qui serrent les mâchoires, c'est ça uniquement?
Alors, le bruxisme, ce sont les gens qui serrent les mâchoires et qui vont grincer des dents. Alors, ils ne s'en rendent pas compte parce que ça a lieu pendant la phase du sommeil paradoxal et c'est le conjoint qui signale c'est insupportable, il n'arrête pas de grincer des dents toute la nuit.
Et au-delà du côté désagréable, ça a un impact sur les dents parce que j'ai pas l'impression que les patients se rendent compte que ça abîme vraiment les dents.
Alors, ça a un impact sur les dents parce que ça va entraîner une usure prématurée des dents parce qu'il y a ce frottement permanent des dents du haut avec les dents du bas. Ça va entraîner aussi des douleurs au niveau de l'articulation de la mandibule, de l'articulation temporomandibulaire. Parce que
de la mâchoire pour les gens en tout cas.
Oui, parce qu'elle est crispée et en fonction pendant toute la période nocturne.
Donc là aussi, c'est des orthèses à mettre dans la bouche pour faire des gouttières, hein, c'est ça? Ouais.
Alors le principe, c'est la réalisation d'une gouttière qui va soit se poser sur les dents du bas ou sur les dents du haut. On va avoir une plaque de résine qui va empêcher les dents du haut et dents du bas d'être en contact. Donc on va continuer à grincer des dents un petit peu, mais on va user cette plaque en résine et plus ses dents. Et en plus, l'intérêt de cette gouttière, c'est qu'elle va déprogrammer le jeu musculaire de l'articulation, mettre l'articulation au repos et soulager.
Et donc, c'est très important de traiter le bruxisme de cette façon, parce que les dents très usées, ça peut même avoir un déficit esthétique sur le visage. Vous me disiez qu'on voit ça, je crois, chez certaines personnes âgées. Le nez, je crois, qui sera... Enfin, expliquez-nous.
Plus les dents sont usées, plus on va perdre ce qu'on appelle la dimension verticale, c'est-à-dire la hauteur entre les dents du haut et les dents du bas. Et donc, esthétiquement, on va avoir la pointe du nez qui va se rapprocher de la pointe du menton. Et donc, on va avoir un aspect inesthétique, avec des conséquences aussi au niveau des lèvres, puisqu'il va y avoir une stagnation de salive au niveau des commissures et vont apparaître des perlèches, qui sont des petites infections mycosiques au niveau du coin des lèvres, liées à la stagnation de la salive.
Dernière chose, ce qu'on ignore aussi, c'est que le bruxisme, donc ce problème qui se passe dans la mâchoire finalement, ça peut avoir des conséquences ailleurs sur notre corps et notamment au niveau de nos cervicales.
Ça peut avoir des conséquences au niveau de nos cervicales parce que notre corps, il fonctionne vraiment en deux parties, côté droit, côté gauche, et on doit être totalement symétrique. Et donc, si on a un déséquilibre au niveau de la mâchoire d'un côté, eh bien cela a des conséquences donc au niveau des cervicales et même ce qu'on appelle donc les pathologies descendantes. Vous pouvez boiter parce que vous avez un déséquilibre au niveau de votre mâchoire supérieure et inférieure.
Très bien, docteur Lecard. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre plateau aujourd'hui. Notre invité, c'est vous, docteur Christophe Lecard. Je rappelle que vous êtes chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Alors, docteur Lecard, avec vous cet après-midi, on parle de ces problèmes de santé dont on ignore parfois que l'origine finalement est dans notre bouche. Et on va prendre tout de suite un exemple surprenant, enfin en tout cas moi ça m'a surpris, la tendinite.
Eh bien, on peut avoir des tendinites qui ont une origine dentaire. Si vous avez une carie qui n'est pas soignée, il faut savoir qu'au cœur de la dent, vous avez la pulpe dentaire où se trouvent les vaisseaux et les nerfs qui irriguent la dent. Donc les bactéries qui sont présentes dans votre bouche, eh bien, elles se retrouvent dans la circulation générale et elles vont pouvoir migrer partout dans l'organisme. Et ces bactéries de la bouche peuvent venir se greffer sur un tendon et entraîner une tendinite. Donc c'est connu des sportifs, donc ils font contrôler régulièrement leurs dents pour ne pas avoir ce type de soucis. Alors on peut avoir une tendinite 100% d'origine dentaire, mais aussi on peut avoir une autre tendinite, donc d'une autre origine, mais dont l'inflammation est entretenue par ces bactéries qui viennent se greffer sur le tendon.
Mais d'ailleurs, plein de gens qui passent à côté de ça. On ne sait pas qu'une tendinite, enfin le grand public en tout cas, parce que Jimmy a l'air de bien connaître, il fait un signe de la tête. Vous connaissiez, vous, les tendinites liées aux dents enfin,
oui,
les...
mais parfois, c'est vrai qu'on a des tendinites chez des patients qui ne sont pas bricoleurs et on ne comprend pas pourquoi. Parce que normalement, la tendinite, ça va être le tennisman, ça va être le menuisier qui va faire tout le temps le même geste. Et des personnes qui ne vont pas faire cette sollicitation d'une articulation, mais qui ont quand même une tendinite. Et donc, on se demande, mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous avez ça ? Donc, peut-être se tourner du côté des dents, c'est une bonne piste pour les patients.
Les sportifs, les kinés, ils sont au courant de ça ?
Alors, les kinés sont de plus en plus au courant. Et quand ils ont une tendinite qui ne cède pas au traitement classique, ils invitent à aller consulter donc, le chirurgien dentiste.
Petite anecdote, je crois qu'il y a plusieurs années, un cycliste très connu a dû arrêter le Tour de France à cause de ça, d'ailleurs.
Eh bien, en 1980, Bernard Hinault avait un problème de genou. Il a été obligé d'arrêter le Tour de France. Et son problème de genou était lié à une dent de sagesse qui était infectée. Et donc, on a soigné cette dent de sagesse et il n'a eu plus de problème au genou.
Incroyable. Jimmy, encore à vous.
Oui, ça veut dire que finalement, tous les sportifs ont intérêt à se faire suivre. Alors, déjà tous les Français, mais quand on est sportif, vraiment prendre soin de ses dents, c'est important.
C'est très important pour les sportifs de haut niveau. Un, parce que c'est leur métier donc, d'exercer leur sport. Et donc, et comme ils sollicitent beaucoup leurs articulations, ils doivent se faire contrôler absolument tous les ans.
Docteur Lecard, autre truc étonnant, le dentiste aujourd'hui peut être aussi le premier à diagnostiquer une maladie mentale, une maladie psychiatrique, notamment les troubles autour de l'alimentation, évidemment, comme l'anorexie et la boulimie. Comment vous pourriez faire le diagnostic dans la bouche ?
Eh bien, dans la bouche, on peut voir les premiers signes de l'anorexie et de la boulimie parce que ces personnes ont des régurgitations, elles se font vomir et donc il y a une érosion des dents, c'est-à-dire une dissolution de l'émail, une disparition de l'émail que l'on observe sur les faces internes des incisives. Et ça, c'est vraiment lié au vomissement provoqué chez les personnes qui ont des troubles alimentaires.
Donc vous pouvez être le premier à donner l'alerte un peu sur ce genre de...
Et donc on peut être les premiers... donc a donné l'alerte en disant c'est quand même bizarre, ces faces internes des dents qui sont particulièrement usées avec l'émail qui a disparu, c'est certainement peut-être un signe de trouble alimentaire.
Autre chose, des causes ORL peuvent être liées, enfin des maladies ORL peuvent être liées à des problèmes dentaires, comme la sinusite par exemple. On peut avoir une sinusite dentaire.
On peut avoir des sinusites qui ont une origine dentaire parce que les molaires supérieures peuvent avoir leurs racines qui sont soit en contact avec la paroi du sinus maxillaire ou carrément plongées dans le sinus maxillaire. Donc une infection au niveau d'une molaire supérieure peut entraîner une sinusite chronique.
Autre problème qu'on peut avoir dans la bouche, les aphtes à répétition. Alors j'ai pris cet exemple parce qu'on a eu une question il y a quelques semaines là-dessus. On nous demandait si justement le fait d'avoir notamment des aphtes à répétition, ça pouvait peut-être cacher une autre maladie sous-jacente. Encore une fois, ce lien entre la bouche et est-ce que ça pourrait avoir un lien avec autre chose qui se passerait dans notre organisme ?
Le problème des aphtes, c'est qu'on ne connaît pas l'étiologie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'origine. Donc on sait qu'un aphte se soigne spontanément, cicatrise au bout d'une dizaine de jours, qu'il y a des facteurs favorisants comme la consommation de noix, noisettes, de fromage type gruyère. Mais par contre, si vous souffrez d'aphtes à répétition avec ce qu'on appelle des aphtoses géants, c'est-à-dire un nombre d'aphtes très important, eh bien, il peut y avoir derrière un déficit vitaminique et il peut y avoir aussi un problème d'immunodépression. Donc, si vous avez de manière très régulière des aphtes en quantité importante, allez consulter votre médecin.
Jimmy, une dernière question.
Un aphte, c'est souvent douloureux. Est-ce que vous avez des petits moyens simples pour soulager justement les gens qui peuvent en souffrir de façon occasionnelle ?
Alors, il n'existe pas de traitement spécifique de l'aphte, mais il existe des petits baumes, des gels que l'on peut appliquer sur l'aphte qui vont légèrement accélérer sa cicatrisation, mais surtout qui contiennent un anesthésique qui vont permettre de soulager les patients, en particulier au cours des repas.
En tout cas, d'apporter un certain confort. Docteur Lecar, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Christophe Lecar. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Alors aujourd'hui, avec vous, on met en avant ces liens entre certains problèmes dentaires ou de gencives et d'autres maladies, des maladies avec lesquelles on ne fait pas forcément le lien. Justement, on sait aujourd'hui que la bouche et le cœur sont en lien direct. Ça, c'est vraiment prouvé et c'est de plus en plus étudié, je crois.
Alors c'est de plus en plus étudié. Depuis de nombreuses années, on sait qu'il y a une maladie très grave qui s'appelle l'endocardite infectieuse qui peut subvenir quand on a une carie qui n'est pas soignée, toujours par ces bactéries qui sont présentes dans la circulation générale, qui viennent de la bouche et qui vont venir se greffer là sur la paroi interne du cœur. Donc c'est une maladie grave dont on peut décéder, mais aujourd'hui qu'on arrive heureusement à soigner. Et la première porte d'entrée de cette maladie infectieuse d'origine bactérienne, eh bien, c'est la bouche.
Mais on sait, c'est parce que des endocardites infectieuses, donc cette infection du cœur, il y en a un certain nombre chaque année. On sait combien sont vraiment de causes dentaires comme ça ?
Alors, le nombre n'est pas établi clairement, mais dans les bactéries que l'on retrouve donc sur cette paroi interne du cœur, eh bien, on retrouve majoritairement des bactéries que l'on trouve dans la bouche.
C'est quel genre ? Enfin, je ne sais pas si ça va nous dire quelque chose, mais ce sont des bactéries, c'est compliqué à mon avis. Jimmy ?
Est-ce qu'il y a d'autres maladies cardiaques qui pourraient être favorisées par justement des problèmes dentaires ? Ou d'ailleurs, est-ce qu'après un problème cardiaque lambda, il serait bon d'aller voir son dentiste pour refaire le point ?
Il y a des maladies comme les AVC et les infarctus du myocarde qui sont favorisées par, entre autres, des maladies gingivales comme la parodontite, c'est-à-dire le déchaussement dentaire. Quand on souffre donc d'une parodontite, eh bien, on a une augmentation...
Rappelez-nous ce que c'est qu'une parodontite au passage quand même.
La parodontite, c'est un déchaussement dentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte d'os autour de la racine, donc c'est une destruction progressive de l'os qui maintient la dent dans son alvéole osseuse. Et donc quand on souffre de cette maladie de déchaussement dentaire, eh bien, on a une augmentation des dépôts de plaques d'athérome au niveau des coronaires et on a une diminution...
Les plaques d'athérome, juste on précise pour nos auditeurs, c'est du gras qui va boucher les artères, en fait. Hein, c'est pas du gras exactement, Jimmy, vous êtes
cholestérol,
précisé.
Les plaques de cholestérol,
voilà.
Ça marche.
Allez, très bien.
Et on va avoir aussi une diminution de l'élasticité de ces artères, donc ce qui va augmenter les risques d'infarctus du myocarde. Et on a exactement la même chose au niveau des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Chez les personnes qui ont souffert de ces AVC et hémorragiques, on a retrouvé les bactéries dites du complexe rouge, qui sont les bactéries les plus responsables de ces maladies gingivales.
Est-ce qu'après un infarctus, du coup, ça ne vaudrait pas le coup d'aller faire un petit coup, un petit check-up ? Enfin, vous l'avez déjà dit peut-être, non ?
Oui, c'est passionnant parce que je pense que personne ne le sait, très sincèrement. Je pense que même nous, les professionnels de santé, on n'est pas très au courant et je pense que pour les patients, c'est un truc qui paraît complètement détonnant. Mais par exemple, est-ce qu'un diabétique, on le sait, ils sont sensibles à certaines infections, il peut avoir une certaine sensibilité aux fragilités dentaires?
Eh bien, pour les patients qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, comme pour les patients diabétiques, le conseil, c'est une visite tous les 6 mois pour vérifier qu'on n'a pas de problème bucco-dentaire. Chez les patients qui ont un diabète, la 6e complication du diabète, c'est toujours cette parodontite, ce déchaussement des dents. Et en plus, ce qui est totalement sournois, c'est que on a plus de risques d'avoir un déchaussement dentaire si on est diabétique. Et si on a un déchaussement dentaire et qu'on est diabétique, eh bien ce déchaussement peut induire un trouble de l'équilibre de la glycémie. C'est-à-dire qu'on peut, malgré le traitement médicamenteux donné par votre médecin, vous pouvez avoir une glycémie qui est non équilibrée. Et simplement, en continuant bien sûr ces médicaments et en traitant la maladie parodontale, donc ce déchaussement dentaire, eh bien on arrive à rééquilibrer la glycémie.
Autre lien, on va dire inattendu, entre santé dentaire et santé générale, chez les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui on s'intéresse désormais vraiment de très près à ce lien avec la bouche de ces patients.
Alors, quelques études récentes ont retrouvé au niveau du cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer toujours ces bactéries du complexe rouge, ces bactéries les plus virulentes dans le déchaussement dentaire. Alors, ça ne veut pas dire que si on a un déchaussement dentaire, on risque
on
d'avoir
Alzheimer, mais
donc
non,
Alzheimer, c'est pas ça. Mais c'est certainement un facteur favorisant.
D'accord. Jimmy ?
Donc là encore, si jamais on est même en bonne santé, c'est-à-dire pas diabétique, pas d'infarctus, on pense à aller bien, mais il faut quand même aller voir le dentiste, même en prévention, régulièrement, puisque si on se dit que ça a un impact sur la démence ou la maladie d'Alzheimer, bah c'est toujours ça de gagner de toute façon.
Il est essentiel d'aller consulter au moins une fois par an chez son dentiste, parce qu'on ne peut pas être en bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire.
On aurait montré aussi, docteur Locard, chez les personnes âgées, un lien entre le risque de chute, tenez-vous bien, et les problèmes de dents, des dents manquantes même plus précisément. En quoi le fait qu'il manque quelques dents chez une personne âgée, ça peut le faire tomber, je ne comprends pas.
Comme on l'expliquait précédemment, on fonctionne vraiment côté droit, côté gauche, et le côté droit et gauche doit être parfaitement équilibré. Et donc si vous n'êtes pas équilibré au niveau de votre mâchoire, vous allez plus fonctionner d'un côté que de l'autre au niveau de l'ensemble de vos muscles. Et donc cela peut entraîner des déséquilibres. Et donc chez les personnes très âgées, eh bien, on peut avoir des chutes qui ont pour origine un problème de dents manquantes non remplacées.
Ça veut dire qu'en gros, on peut conclure que pas de bonne santé générale, même les jeunes hein, qui se croient en bonne santé, qui ne viennent jamais vous voir, mais pas de bonne santé générale si on ne fait pas suivre ses dents, hein, c'est ça ?
Effectivement, pas de bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire.
Et d'ailleurs, petite question, à partir de quel âge on amène les enfants chez le dentiste ? Parce que souvent, on se dit, on va attendre, il y a la peur du dentiste, mais est-ce qu'un enfant de 2-3 ans, vous pouvez le recevoir dans des conditions, on va dire, sereines, parce qu'il y a toujours un peu d'angoisse. Hein,
pour eh bien, l'idéal, la première consultation, c'est dès l'âge de 1 an pour pouvoir appréhender l'univers du cabinet dentaire et puis vérifier que les bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire et d'hygiène alimentaire sont respectées par les parents.
Et puis, dernière petite chose, parfois, alors j'ai eu la chance de voir un dentiste qui était très sympa pour mon fils et il avait justement le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, dont on voit parfois les jeunes faire n'importe quoi, mais chez le dentiste, on peut traiter des dents sans avoir mal et sans traumatisme chez les petits.
Oui, bien sûr. De plus en plus de cabinets dentaires sont équipés du méopase, donc ce gaz hilarant. Et puis, de plus en plus de praticiens aussi pratiquent l'hypnose et ça fonctionne très bien chez certains enfants.
Merci beaucoup, docteur Locard, d'avoir accepté de répondre à nos questions et donc de nous avoir donné tous ces conseils en matière d'hygiène bucco-dentaire qui, on le comprend maintenant, ont des liens avec notre santé en général. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous êtes également l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries ?» qui vient de sortir donc chez Flammarion. Alors, professeur Perlmutter, vous écrivez en introduction de votre livre que notre corps contient plus de bactéries que de cellules. Combien y a-t-il de bactéries ? À quel point on en a beaucoup, justement ?
Effectivement, il faut nous considérer, ce qu'on a, je vais dire un gros mot, comme un holobion. On n'est pas juste nous, on est un être fait de nos 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Si vous les regroupez ensemble, ça va faire 1,5 kg.
Ah oui, quand même.
Et ces bactéries vivent avec nous. Et donc, ce qu'on connaît sur les bactéries, c'est qu'elles vont agir sur notre organisme. Et ce qu'on connaît moins, ce qui est une grande nouveauté, c'est qu'elles vont agir sur notre cerveau, sur notre comportement. Et donc, qu'on sort de la théorie où le cerveau contrôle tout, ce qu'on appelait le brainocentrisme, et que notre ventre, nos bactéries vont aussi contrôler avec le cerveau notre comportement. Et il faut bien comprendre en cette période difficile Covid que ce n'est pas que nous qui sommes faits de bactéries, c'est tout notre environnement, toute la Terre aussi, où les êtres vivants les plus nombreux sur la planète, ce sont nos bactéries, les archées, les virus, si tant est qu'un virus est vivant, et avec les modifications qu'on entraîne de notre planète, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, il va y avoir de nouvelles bactéries qui vont apparaître, de nouveaux virus qui vont apparaître, et en fait, on vit dans tout un ensemble, et il faut bien comprendre qu'on est nous, et on est nous, à l'intérieur de nos bactéries, on est aussi tout notre environnement.
Le microbiote, ça reste quelque chose d'assez obscur pour la plupart des Français. Souvent, on associe ça à la flore digestive, tout au mieux, et on pense que ça se limite à la digestion. Or, en fait, il y a plein d'autres fonctions dont lesquelles on peut se servir justement avec ce microbiote.
Eh bien, effectivement, le tube digestif, les bactéries, la flore qu'on appelait la flore, et maintenant on donne un gros mot, le microbiote, sert à digérer, mais ces bactéries ont plein d'autres rôles. Ces bactéries vont avoir un rôle majeur dans notre immunité. Ces bactéries vont jouer un rôle sur la porosité, la perméabilité de notre intestin, sur notre mucus, sur les modifications labiles qui va passer dans tout l'organisme, sur la fabrication de ce qu'on appelle des petits métabolites qui vont aller dans la circulation, aller dans tout l'organisme, vont modifier les neurones, vont modifier notre cerveau. Et donc ces petits êtres-là, quand on les met tous ensemble, sont extrêmement puissants et vont faire, si elles vont bien, elles vont faire que nous on va bien. Si elles ne vont pas bien, ben elles vont nous rendre malades.
Professeur Lermutter, ces bactéries dont vous parlez, elles sont plutôt nos amies. On vit en symbiose avec elles, on l'a bien compris avec ce que vous venez de nous expliquer. Mais parfois, il y a dysbiose. Ça veut dire quoi la dysbiose?
Alors oui, nos bactéries sont nos amies, elles nous permettent d'être en bonne santé. Et puis parfois, il y a un tout petit dérèglement, vous voyez. C'est quand tout un engrenage, tout va bien, juste le petit grain de sable fait, il y a une bactérie qui va se mettre à déconner. Et donc, elle va faire déconner celles qui sont à côté. Et il va y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre bactérien, ce qu'on appelle en gros mot une dysbiose. Et cette dysbiose peut entraîner un retentissement sur tout notre organisme. Donc on le sait sur l'obésité, le diabète. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on sait que ça va agir sur notre comportement. Ça peut nous déprimer, ça peut nous rendre anxieux. Chez certaines personnes, ça peut nous rendre hypersensibles. Et puis peut-être les personnes qui manquent de compassion, nos hommes politiques, ils ont aussi une dysbiose pour manquer de compassion.
Ça explique beaucoup de choses, effectivement, Jimmy.
Vous dites que ça peut conduire à la dépression. Et je crois que justement, quand on donne des hamburgers à des souris, elles dépriment. Ça veut dire que l'alimentation a un impact sur le cerveau?
Absolument. Mais ce qui est incroyable, c'est que, alors effectivement, quand vous donnez une malbouffe à des souris, vous leur donnez des hamburgers pendant plusieurs jours, vous allez modifier leurs bactéries et vous allez modifier le comportement de la souris, un comportement qui se rapproche de la dépression. Elle va moins se déplacer, elle va être un peu moins agressive.
Moi, j'ai l'impression que les burgers me rendent heureuse pourtant, mais...
À court terme, oui.
Ah oui,
mais à long terme, peut-être pas. C'est toute la différence entre le court terme et le long terme. Et puis, ce qui est encore plus incroyable, quand vous prenez une personne déprimée, elle a des bactéries différentes d'une personne qui n'est pas déprimée. Vous prenez son microbiote, ses bactéries, vous la mettez à des souris, eh bien, vous allez entraîner une dépression chez la souris. Et ça vous montre donc que l'alimentation, par l'intermédiaire de modifications de nos bactéries, va entraîner une dépression. Et donc, tout l'espoir, c'est qu'en jouant, en ciblant ces bactéries-là, on arrive à améliorer notre comportement avec des nouvelles solutions de traitement.
Là, on a parlé un tout petit peu de l'alimentation. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais il n'y a pas que ce qu'on mange, finalement, qui peut perturber l'équilibre de ces bactéries. Ça peut être aussi des médicaments ou des maladies qu'on a, je crois.
Absolument. Alors, ce qui est le plus perturbant pour nos bactéries, c'est tous les jours, c'est l'alimentation. Mais vous avez d'autres modes de perturbation. Vous allez avoir, par exemple, certains médicaments. Mm-hmm. Alors, tout le monde pense aux antibiotiques, mais bien presque plus de 70% de nos médicaments vont modifier nos bactéries digestives. Et puis, vous pouvez avoir aussi l'activité physique qui va les améliorer. Vous pouvez aussi probablement avoir certains polluants qui vont les modifier.
Si je bois trop d'alcool ou si je fume, par exemple, ça a un impact.
Si vous prenez trop d'alcool, vous allez avoir un appauvrissement de vos bactéries. Si vous fumez trop, ça va plutôt être les bactéries pulmonaires qui vont être modifiées. Mais tout ce qu'on fait va avoir une conséquence sur elles. Et si vous ne prenez pas soin d'elles, elles ne prendront pas soin de vous en retour.
Du coup, parfois, on propose des probiotiques pour équilibrer la flore digestive. Mais du coup, c'est quoi un probiotique? Parce qu'on a l'impression que parfois, que c'est un peu marketing et que la définition n'est pas très claire.
Alors, la définition est très claire. Et là où c'est marketing, c'est que la définition est tellement compliquée, en fait, c'est que Quand vous regardez une boîte de probiotiques, c'est jamais écrit dessus probiotiques, c'est écrit ferment lactique. Mais un probiotique, c'est quoi? C'est un être vivant, bactéries ou levures, qui ingéré en quantité suffisante chez une personne en bonne santé va avoir un effet bénéfique sur sa santé. Donc chez une personne en bonne santé, vous améliorez la santé. Et donc, le raccourci est fait qu'un probiotique, si vous n'êtes pas bien, va améliorer votre santé. C'est très clair sur des cultures de cellules que vous allez les améliorer. Quand vous avez une souris qui est déprimée, vous allez lui donner des probiotiques, vous la ferez aller mieux. Et quand vous prenez une personne, le niveau de preuve, c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme. Il existe aussi. Et il faut penser que ce n'est pas que nos bactéries, c'est aussi tout ce que fabriquent nos bactéries qui va nous améliorer.
Professeur Perlmutter, on va poursuivre cet entretien. On reviendra sur les probiotiques un peu plus tard. Vous restez bien sûr avec nous. Pardon.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries » publié chez Flammarion Versilio. Alors justement, on va parler à présent des maladies du microbiote. Vous citez dans votre livre de très nombreuses études menées dans le monde qui montre ce lien entre notre flore intestinale et notre état général. Certaines études, on va faire un petit crochet sur l'obésité par exemple, montrent qu'il y a vraiment un lien entre ce qui se passe dans l'intestin avec ces bactéries et le fait de souffrir d'obésité.
Absolument. Alors, en fait, quand vous avez un surpoids, une obésité, vous allez avoir un appauvrissement de vos bactéries en termes quantitatifs et surtout qualitatifs. Vous allez avoir moins d'espèces, moins de diversité bactérienne à cause de l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on raconte dans ce livre, on se focalise sur le cerveau, c'est que cet appauvrissement bactérien n'a pas des conséquences simplement sur votre métabolisme, sur la prise de poids, mais aussi sur votre humeur et peut entraîner parfois une tristesse de l'humeur, parfois une véritable dépression. Et c'est probablement lié, au moins en partie, à cet appauvrissement de la diversité bactérienne. Alors, comment ça fonctionne? Vous mangez déséquilibré, donc vous n'apportez pas les bonnes nourritures à vos bactéries, et du coup, certaines vont disparaître. Et l'interaction que vont faire les bactéries les unes avec les autres et avec votre propre organisme va être perturbée. Vous allez avoir un appauvrissement de l'imperméabilité de votre intestin qui va devenir poreux, vous allez avoir des modifications de l'immunité, vous allez avoir des produits que fabriquent vos bactéries qui vont être différents et ça va aboutir d'un point de vue somatique à par exemple un diabète, à un moins bon métabolisme du cholestérol et d'un point de vue psychologique, soit une addiction à l'alimentation, soit à une tristesse de l'humeur, une dépression, ce qui montre que ces bactéries vont avoir un rôle global, non seulement sur votre organisme qu'on appelle le somatique, mais également sur le psychique, sur le psychologique.
Est-ce qu'il y aurait d'autres pathologies ou d'autres choses un peu plus étonnantes, comme par exemple, je sais pas, l'addiction, je sais pas, à la cocaïne? Est-ce que le microbiote pourrait avoir un impact sur le fait qu'on soit ou pas addict à certaines substances comme la cocaïne?
Alors, c'est très important ce que vous racontez, Jimmy, parce que le microbiote, il est dans le ventre, il est au niveau de notre centre de gravité, il va agir forcément partout. Ce qu'on sait sur les addictions, par exemple, et c'est très important parce que ça peut apporter des solutions, des nouvelles solutions, par exemple que les personnes qui ont une addiction à l'alcool vont avoir une porosité de l'intestin augmentée et que certaines toxines pourront passer qui vont rendre les patients plus, leur donner un craving plus important. Le craving, c'est l'envie irrépressible d'aller consommer une substance avec après un sentiment de culpabilité derrière. Donc il est bien connu pour l'alcool, il est probablement vrai pour le sucre également et pour d'autres substances. Pour la cocaïne, ce qui a été montré, c'est qu'en fonction de vos bactéries, vous allez être plus ou moins addict à la cocaïne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pensait que le foie, ça fabriquait la bile, ça servait à digérer, mais que vos bactéries vont modifier la composition de la bile, et c'est ce qu'on raconte, qui est que du coup, la bile qui va passer dans le sang va se fixer sur des récepteurs différents au niveau du cerveau, et c'est bien montré chez des rats que quand vous opérez les rats au niveau de leur vésicule, vous changez leur microbiote et leur bile, ils vont être moins addicts à la cocaïne, et la cocaïne aura moins d'effet sur eux. Et c'est juste incroyable de penser que nos petites bactéries vont agir sur notre comportement, et du coup, aller dire à quelqu'un arrête la cocaïne, arrête de boire, arrête de manger, c'est juste pas comprendre le mécanisme de la maladie, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, il faut l'accompagner. C'est tout un processus, non seulement psychologique, mais également somatique, pour pouvoir sortir d'une addiction.
Vous disiez tout à l'heure que donc, ce qui causait les principaux, on va dire, dysfonctionnements du microbiote, donc de, de cette organisation de nos bactéries et de leur richesse ou non, c'est vraiment l'alimentation, mais donc surtout la malbouffe, j'imagine. On sait qu'on a vraiment un microbiote bien plus abîmé, bien plus pauvre que nos ancêtres qui mangeaient moins de fast-food, de gâteaux industrialisés, etc.
Alors ça, on le sait clairement quand on compare, par exemple, une alimentation plus traditionnelle qu'on peut voir en Afrique, qui est beaucoup plus riche en fibres, moins riche en protéines et surtout moins riche en sucre, en hydrates de carbone. Et ça, je voudrais dire pour les auditeurs que le sucre, et j'ai beaucoup de patients comme ça, c'est pas le petit morceau de sucre que vous mettez dans votre café qui fait 5 malheureux grammes ou 2,5 grammes, c'est tous les féculents, les céréales qui sont transformés, qui sont extrêmement riches en sucre, qui peuvent perturber notre organisme. Et dans les générations antérieures, on n'en mangeait pas tant.
Et est-ce que la quantité joue aussi, parce qu'on parle de la qualité, le fait de trop manger, est-ce que c'est aussi mauvais?
Si je mange beaucoup, beaucoup de carottes, beaucoup, beaucoup de légumes, est-ce que ça peut faire du mal?
Alors, effectivement, il faut comprendre que la biologie, c'est une balance, c'est un équilibre. Ce n'est pas ou tout bien ou tout mal. Quand vous faites tout en excès ou trop, imagine, vous mangez trop de fibres, eh ben vous aurez mal au ventre, vous allez trop fermenter, vous allez gonfler, vous ne serez pas bien. Vous n'en mangez pas assez, vous allez avoir un appauvrissement bactérien, vous ne serez pas bien. Et donc, c'est tout l'équilibre qui est compliqué, parce qu'on aime bien quand tout est tout blanc ou tout est tout noir. C'est tout cet équilibre subtil dont ont besoin nos bactéries et dont nous, on a besoin pour être en bonne santé.
Professeur Perlmutter, on va parler à présent des solutions finalement pour construire ou reconstruire, si c'est possible, améliorer en tout cas notre microbiote. D'abord, il faut dire que beaucoup de choses, vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, se passent finalement très tôt dans notre vie. Vous disiez le microbiote, donc vous parliez des bébés, mais même déjà pendant la grossesse, ça se forme, hein, c'est ça? Dans le ventre de notre maman.
Absolument. Et donc, c'est très important pour les PA, c'est ce qu'on raconte dans le livre, de construire dès la naissance un bon microbiote. Alors comment ça se construit un bon microbiote? Ça se construit déjà pendant la grossesse, puisque la maman va transmettre ses bactéries à son enfant. Et donc si la maman va pas bien au dernier trimestre, c'est ces bactéries du dernier trimestre qui seront transmises à l'enfant. Si elle prend des médicaments de façon intempestive, si elle s'alimente mal, elle risque de transmettre un déséquilibre bactérien à son enfant. Ensuite, si l'enfant va naître par voie naturelle ou par césarienne, il ne va pas acquérir les bonnes bactéries. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent que si on badigeonne l'enfant, soit avec du liquide vaginal de la maman, soit on fait une greffe fécale à l'enfant de la maman, pour éviter, s'il naît par césarienne, pour éviter qu'il ait un déséquilibre bactérien, une dysbiose, eh bien, on améliore...
Parce que c'est très bien d'être exposé à la flore vaginale de la maman
absolument.
En sortant. Hein,
voilà. C'est beaucoup mieux que la flore cutanée quand on naît par césarienne. Déjà, on améliore l'enfant. Et puis, au moment de... Ça a été bien montré chez des souris. Et si vous inhibez une réaction immunitaire extrêmement forte au moment de l'arrêt de l'allaitement par rapport à l'alimentation, la diversification alimentaire par des antibiotiques, vous allez générer une susceptibilité à faire de nombreuses maladies. Et donc, c'est très important dans les premiers mois de vie de l'enfant, particulièrement au moment du sevrage, de faire très attention à ne pas pousser son médecin, si l'enfant a de la fièvre, à qu'il prescrive des antibiotiques. Parce que le médecin prescrit des antibiotiques, mais quand une maman avec son enfant va voir son médecin et qu'il ne prescrit pas d'antibiotiques alors qu'il y a une fièvre élevée, tout le monde est dans un cercle vicieux infernal.
Donc, on limite au maximum la consommation d'antibiotiques quand c'est possible.
Absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour conserver un bon microbiote tout au long de sa vie?
Alors ensuite, pour conserver le bon microbiote dans sa vie, je dirais que c'est une alimentation... Tout ce qui est vert va être bon pour le microbiote. Donc vert, c'est brocoli, qui est un aliment magique avec le tryptophane qui va jouer un rôle, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, sur le cerveau également.
Moi, j'adore le brocoli, ça tombe bien, c'est mon légume préféré.
Voilà, après, vous pouvez prendre haricots verts, vous pouvez prendre épinards, courgettes, que sais-je.
Donc les verts, les oranges, par exemple, c'est moins bien, les carottes et tout ça. Ouais.
C'est bien, mais c'est moins bon pour vos bactéries.
D'accord.
Parce que la bouffe est moins bonne pour nos propres bactéries.
D'accord.
Et puis, surtout, vous prenez pas trop d'aliments, le moins d'aliments transformés possible. Et ensuite, je dirais, une alimentation équilibrée, pas trop de, pas de jus de fruits non plus, mieux vaut prendre les fruits avec la pulpe des fruits et pas en excès, évidemment. Quant aux boissons, pas de jus de fruits, de l'alcool, le moins possible, pour aller bien, et je ne dis pas zéro. Et si vous avez ça tout au long de votre vie, vous allez construire de bonnes bactéries. Alors, il faut faire très attention, parce que j'ai beaucoup de patients qui ont mal au ventre. Si d'un seul coup, vous changez ça, vous allez trop fermenter au niveau du ventre et vous serez paradoxalement encore moins bien.
Donc on y va tranquillement.
Et donc on y va tranquillement avec son médecin.
Progressivement, d'accord.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, les probiotiques, est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer les choses justement en prenant, et si oui, lesquels ?
Alors les probiotiques, ils vont être intéressants si vous avez soit en hiver une fatigue, un coup de blues, et c'est ce qu'on montre, où on montre qu'on peut calmer l'anxiété.
Les petits yaourts qu'on voit dans les supermarchés, parce qu'on a l'impression qu'il y a des probiotiques partout, on ne parle pas de ça là, on est d'accord, ce n'est pas les petits yaourts à boire, si, ça suffit.
Alors les yaourts, par définition, quand il y a écrit yaourt dessus, il y a des bactéries dedans, parce que sinon ce n'est pas un yaourt, c'est un lait fermenté.
Donc c'est un probiotique alors ?
On n'a pas le droit de dire probiotique, s'il y a des bactéries dedans. Bon, mais d'accord. Quand vous achetez une boîte, je dirais que oui, je pense que ce sont des probiotiques.
D'accord,
absolument.
Ça c'est votre très bien.
Après, quand vous prenez un yaourt, il va y avoir du lactose dedans, et puis certaines personnes ne vont pas tolérer le lactose non plus. D'accord. Et donc, quand vous avez, par exemple, et c'est comme ça que je traite mes patients, un petit coup de blues, une fatigue, je préfère donner des probiotiques plutôt que des anxiolytiques. Quand vous avez une véritable dépression, eh bien, peut-être, ce sera intéressant, en plus des traitements antidépresseurs traditionnels, de cibler le microbiote intestinal, soit en donnant des bactéries, des probiotiques, soit en donnant peut-être des métabolites de vos bactéries. Mmh. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir comme ça pour soigner les personnes de façon plus globale que seulement le cerveau ou seulement le tube digestif.
Si jamais on fait ce que vous dites, on fait attention, on essaie de surveiller l'alimentation, de limiter les médicaments inutiles, au bout de combien de temps on peut espérer rétablir ou en tout cas corriger les choses au niveau de notre microbiote? Ça prend du temps.
C'est Jimmy, gros mangeur de pizza, qui veut savoir comment il peut réparer les choses.
Si j'arrête kebab et pizza, au bout de combien de temps je pourrais me sentir un peu mieux?
Alors ça va, quand on change l'alimentation, par exemple chez des personnes qui fermentent trop et on leur donne un régime, qui sont stressées, qui sont hypersensibles, qui viennent me voir, qui ballonnent au niveau du ventre, et on leur donne un régime qui va supprimer les fermentations trop importantes. On enlève le lactose, on enlève le gluten. Franchement, en quelques jours, les personnes sont améliorées. On les accompagne. Et puis après, c'est vrai qu'on va supprimer certains bons aliments qui sont riches en inuline, comme l'ail, comme l'oignon, comme les échalotes. Et donc, on peut compenser avec certains compléments, certains acides gras à chaîne courte, par exemple, pour compenser le fait qu'on supprime certains aliments qui fermentent. Donc, voilà, c'est une subtile association d'une alimentation et de certaines bactéries ou métabolites bactériens.
Bon, avec tout ce qu'on vient d'expliquer à nos auditeurs aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a plein qui se demandent, mais docteur, comment je fais pour savoir dans quel état est mon microbiote? Il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent d'analyser votre microbiote avec un échantillon de sel, mais ça, vous dites, attention, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Donc alors, comment on sait si on a un bon microbiote du coup ?
Alors déjà, faut faire attention. Si on se fonde sur les recommandations de la Société nationale française de gastroentérologie, dont je fais partie, aujourd'hui il n'y a pas d'indication à vous faire une analyse de microbiote. Pourquoi il n'y a pas d'indication ? Parce que on ne va pas changer votre traitement aujourd'hui. Simple. Moi, j'ai trop de patients qui viennent me voir en consultation, qui me donnent leurs examens, sans même que je les connaisse, sans même discuter avec eux. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en médecine. Déjà, en discutant avec la personne, en discutant de son alimentation, on peut appréhender comment va être son microbiote. Et ensuite, peut-être que dans les années qui vont venir, je vous tiendrai un discours différent parce qu'on aura certaines choses qui seront analysées au niveau des bactéries digestives et puis on pourra peut-être avoir un probiotique plus ou moins ciblé. Et puis peut-être que certaines personnes, bien que ce ne soit pas recommandé par la Société nationale française de gastro-entérologie, veulent se faire s'alléger de 200 euros, faire une analyse de microbiote, changer leur alimentation et voir un mois après comment ça va. Mais ça, c'est juste une curiosité intellectuelle individuelle. C'est plus aux médecins de proposer ça.
Merci beaucoup, professeur Perlmutter, d'être venu sur notre plateau cet après-midi, donc nous éclairer sur le rôle de nos bactéries intestinales, de notre microbiote, sur notre santé globale. Alors pour ceux, évidemment, qui voudraient en savoir plus, je ne peux que rappeler le titre de votre livre. Et si la solution venait de nos bactéries, chez Flammarion. Merci encore, professeur.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. On vous retrouve tout de suite dans Sans Rendez-vous avec Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite. Catherine Blanc pour sa chronique sexo tous les jours à la fin de cette émission. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question de Martine que Jimmy va nous lire tout de suite. Je sais que vous adorez ça.
Je suis un grand lecteur.
Voilà,
avec
on y va.
Mon mari, nous traversons des hauts et des bas. En ce moment, tout ne se passe pas très bien avec lui. J'ai remarqué qu'il me faisait l'amour uniquement lorsqu'il a bu. Comment expliquer cela ? Bon, je pense que même moi, je serais capable de dire que s'il a besoin de boire de l'alcool pour avoir des rapports sexuels, ça reste problématique.
C'est extrêmement problématique. Ça veut dire qu'il ne va pas bien. Encore une fois, ne parlons pas d'abord de la sexualité. Si tout d'un coup, il y a une tension entre deux personnes et que le seul moyen de s'approcher l'un de l'autre, c'est par le biais d'une prise d'alcool, donc essayer de trouver à la fois une sorte d'apaisement ou au contraire
désinhibition,
etc. C'est qu'il y a une problématique générale d'abord dans la relation, mais surtout une problématique pour cet homme-là. C'est-à-dire que si on a besoin de boire pour être en lien avec l'autre, c'est qu'on est dans un état de déprime manifeste et de manque peut-être même de sérotonine telle que du coup on va avoir recours à des tas de choses extérieures qui va du coup entraîner une relation de couple qui va pas bien, et comme une relation de couple va pas bien, on vit la sexualité avec de l'alcool. Comme on la vit avec de l'alcool, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, donc il n'y a que de la technique, que de la mécanique sexuelle.
L'alcool, ce qui ça désinhibe un temps, et puis au bout d'un moment ça fait pas bon ménage avec la sexualité, je crois, de toute façon.
Oui, ça fait pas du tout bon ménage avec la sexualité, et puis surtout sa femme voit bien qu'il n'est pas là animé de son désir pour elle, mais bien tout d'un coup porté par quelque chose pour se mettre de l'entrain et avec une sorte de perte de repère personnel. Donc on ne va que de plus en plus vers une relation qui est déficiente.
Jimmy, l'alcool, on est d'accord, ça peut causer aussi des problèmes d'érection, des problèmes de sexualité vraiment physique.
Et c'est souvent plutôt ça le problème, hein. C'est les conséquences négatives de l'alcool, parfois aussi de la violence, puisqu'il y a la désinhibition, donc ça ne fait pas bon ménage. Souvent, on banalise ça avec un verre de vin, c'est sympa, ça désinhibe, mais il ne faut pas le voir de ce côté-là. Mais dans un couple, qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Peut-être mieux vaut ne pas avoir de relations sexuelles du tout que d'avoir des relations sous alcool. Elle devrait peut-être le repousser, non ?
Alors d'abord, je voudrais effectivement aller dans votre sens, hein, Jimmy. L'alcool, on a trop tendance, et notamment la jeunesse pense que l'alcool leur permettra de passer le cap de l'inhibition et de la pudeur. Mais en fait, ça ne donne pas du tout la notion de la compétence réelle. Du coup, il y a une sorte d'addiction qui se fait, sans quoi on ne se sent pas à la hauteur.
Sans alcool, ils n'y arrivent pas.
Exactement. Et il faut savoir que non seulement ça entraîne des pertes d'érection, mais ça entraîne aussi des éjaculations ou qui ne viennent pas chez certains hommes. Du coup, ça devient un pince-somme de faire l'amour, ou au contraire, des éjaculations qui arrivent très très rapidement, ce qui donne pas non plus la mesure de la compétence
pas
de l'homme.
Une bonne idée de démarrer comme ça non plus.
Absolument. Alors vraiment, c'est une fausse bonne idée. Hein. Et donc, vous me disiez, pardon, Jimmy.
Mieux vaut peut-être ne pas avoir de relations sexuelles. Il devrait peut-être le repousser. En fait, il y a des hauts et des bas dans un couple, c'est normal.
Je crois qu'il ne faut pas vouloir absolument faire l'amour pour faire l'amour, puisque là, il y a un véritable malentendu. Et puis en plus, accepter que ça se passe dans ces conditions, c'est même méprisant d'elle-même. Je crois qu'il faut pouvoir dire que ça ne va pas en ce moment, câlinons-nous, parlons-nous, allons voir quelqu'un le cas échéant, mais on ne peut pas rester là-dessus parce que, comme vous dites, ça fait monter d'une agressivité, une dévalorisation personnelle de l'homme pour lui-même ou de la femme pour elle-même, avec un sentiment dans le mal-être masculin que la femme en est responsable, parce que c'est un cercle vicieux, il se sent mal, il boit, elle est là, elle accueille parce qu'elle essaie d'être douce, mais du coup, il y en a un qui perçoit dans son mal-être l'autre plus puissant capable de réconforter, et du coup il lui en veut de cette compétence. Donc on est dans un truc qui tourne au vinaigre.
Mieux vaut refuser, comme le suggère Jimmy, vaut mieux qu'elle lui dise
oui,
non.
Oui, mais en douceur, c'est-à-dire je crois que c'est pas le moment, je pense que c'est pas le sujet, là tu n'es pas dans ton état normal, faisons-le quand on est dans la disponibilité, et l'un et l'autre, parce qu'elle n'est pas un objet, pas plus qu'elle n'est un déversoir de sa souffrance ou de sa sexualité ou de son éjaculation.
Et en refusant, elle peut pas aggraver encore son problème, justement. Vous dites refuser avec douceur, mais...
Je pense qu'il faut refuser avec douceur, mais il faut refuser. On ne peut pas passer notre temps, et ça, il y a trop longtemps, les femmes ne se sont pas permises de refuser sous prétexte de ne pas aggraver l'inconfort, l'insécurité ou l'agressivité masculine. Donc, je crois qu'il faut pouvoir dire non, évidemment pas de façon castratrice, mais le dire non avec bienveillance pour que, du coup, on trouve d'autres lieux pour pouvoir retrouver le chemin de la communication.
Donc, il faut qu'il se fasse aider, tout simplement.
Absolument. Non, je crois que quand on a besoin d'alcool pour rentrer dans le lien à l'autre, quels que soient les liens, aller travailler, l'amour, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et il est urgent de s'en préoccuper.
Merci beaucoup, Catherine. À demain. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Une belle fin d'après-midi avec Mathieu Noël et Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Restez bien à l'écoute d'Europe 1.